IBFM, le journal de la semaine, Henri Papazian.
Bonjour et bienvenue dans ce journal de la semaine d'IBFM. Le 7e dîner traditionnel du CCAF a cette année encore tenu ses engagements. Une foule extrêmement dense au cocktail d'avant-dîner, se pressant autour des personnalités ayant répondu à l'invitation du CCAF, parmi lesquelles le président François Hollande, de passage pour quelques instants, au cours desquels il a pu mesurer le niveau de sa popularité, resté intact auprès des Arméniens. Une table d'honneur brillante, avec des invités prestigieux pour la 7e édition de ce rendez-vous, devenu à présent incontournable. Outre le président de la République, Emmanuel Macron, invité traditionnel depuis le premier rendez-vous présidentiel initié par François Hollande, on compte parmi les invités ayant pris place aux côtés des deux coprésidents du CCAF, Mourad Papazian et Arat Oranian, les corps diplomatiques représentés par Asmik Tolmadjian, ambassadrice d'Arménie en France, et Jonathan Lacote, ambassadeur de France en Arménie, les représentants des cultes avec Mgr Norvan Zakarian et Mgr Vahan Ovanessian pour l'Église apostolique, Mgr Eli Yerayan pour les Arméniens catholiques et le pasteur Joël Mikaelian, président de l'Église évangélique arménienne. Anne Hidalgo, maire de Paris, Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Patrick Devedjian, président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Georges Kepenekian, premier adjoint du maire de Lyon, et Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, en invité surprise, représentent les corps constitués, et le gouvernement ayant délégué Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, et Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. Autre invité exceptionnel, Hagop Derhachadrian, président du bureau mondial de l'AFR à Dashnak-Soutioun, qui a pris place aux côtés de Taner Akçam, récipiendaire du prix du CCAF 2020. Enfin, Lynn Renaud et Levon Sayan, présents pour assister à l'hommage rendu à Jacques Chirac, Alexis Goffian et Jean-Marc Germain, complètent la liste des présents à cette table d'honneur, qui accueille, bien sûr, également Nikos Aliagas, maître de cérémonie de ce dîner du CCAF, qui est monté le premier à la tribune pour lancer la soirée par la projection d'une vidéo consacrée à Jacques Chirac, qui fut, comme chacun le sait, le premier président français à se rendre en Arménie en visite officielle en septembre 2006, et dans laquelle on rappela qu'il a connu deux présidents arméniens. Mais on se souvient qu'il fut surtout le président qui ratifia la loi du 29 janvier 2001 reconnaissant le génocide arménien et qu'il fut à l'origine de l'année de l'Arménie en France. Anne Hidalgo, suivie de Valérie Pécresse, ont exalté l'amitié qu'elles manifestent à la cause arménienne, s'inspirant chacune de leur expérience et de leurs souvenirs. Cette année, l'invité d'honneur est Taner Akçam, historien turc et auteur de l'ouvrage « Ordre de tuer » consacré aux éléments démontrant l'intentionnalité du génocide perpétré par le gouvernement jeune turc, dont la version française vient d'être publiée aux éditions CNRS. Il reçoit la médaille du courage 2020, décernée par le CCAF et remise par les coprésidents Arat Oranian et Mourad Papazian. Dans son discours de remerciement, Taner Akçam, faisant assaut d'humilité, considère que ses travaux ne méritaient pas de tels éloges car il n'avait pour seul objectif que celui de délivrer la vérité. Qu'il devait son engagement à l'amitié qu'il portait à Hrant Dink, qui avait, quant à lui, payé de sa vie le prix de la vérité qu'il défendait. Il en a profité pour égratigner les dirigeants politiques européens et américains qui, dit-il, peuvent rendre hommage à la reconnaissance du génocide tout en continuant leur business naturel avec la Turquie. Les comparant ainsi aux parrains de la mafia qui se rendent à l'église tous les dimanches pour se repentir tout en continuant leur activité criminelle dès leur sortie. En conclusion, Taner Akçam considère que la reconnaissance du génocide est vitale pour la Turquie, car nécessaire pour le développement d'une société véritablement démocratique et libre dans ce pays. Arat Oranian et Mourad Papazian, les coprésidents du CCAF, se sont ensuite succédés à la tribune pour délivrer leur message, chacun avec leur personnalité et leur tempérament. L'intégralité de leur discours, très complémentaire, est disponible en podcast dans les archives de notre site radio-ipfm.com en accédant au dossier Art et Regards du 30 janvier. Dans un long discours, le président Macron s'est attaché à répondre à l'ensemble des interpellations dont il a fait l'objet lors des discours des deux coprésidents du CCAF. S'il a répondu à la satisfaction de son auditoire lorsqu'il s'est agi des relations avec la Turquie, force est de reconnaître que s'agissant de l'Artsakh, et notamment de la question des charges d'amitié, le doute s'est insinué dans l'esprit des présents, qui n'ont pas tous trouvé satisfaction. Mais dans un communiqué diffusé le lendemain matin même, le Comité de défense de la cause arménienne, le CDCA, déclare accueillir avec intérêt la proposition du président de la République de rechercher les solutions juridiques qui permettent aux collectivités territoriales de soutenir le développement de projets humanitaires et culturels en direction de l'Artsakh. Le CDCA espère la mise en place sans délai du groupe de travail incluant le ministère des Affaires européennes et étrangères, le ministère de l'Intérieur, les maires signataires d'une charte d'amitié avec une collectivité d'Artsakh, annoncée par le président de la République à cet effet, et se dit disposé à participer à ces travaux. Le CDCA sera vigilant à ce que ce groupe de travail œuvre dans le respect scrupuleux du discours du président de la République et aboutisse à une solution sécurisée, juridique pour les collectivités territoriales désireuses de soutenir des projets culturels et humanitaires en Artsakh, conclut le communiqué du CDCA. Nos auditeurs pourront se faire leur propre opinion en écoutant les propos du président de la République, dont l'intégralité que nous avons diffusée hier vendredi est également disponible en podcast dans les archives de notre site radio-hypefm.com en accédant au dossier Art et Regards du 31 janvier. Et l'émission Carte sur table de ce samedi 1er février reviendra sur cette soirée en compagnie du représentant du CCAF et de quelques-uns de nos invités. Vous pourrez y accéder sur 99.5 de la bande FM si vous résidez en région parisienne, mais également sur le live de notre site internet radio-hypefm.com ou encore sur votre smartphone si vous avez pris la précaution de télécharger l'application gratuite d'HypeFM disponible sur iPhone ou sous Android. Nouvelle passe d'armes entre le Premier ministre et le président du Conseil constitutionnel. C'est au cours d'une conférence de presse tenue à Kapan, dans le sud de l'Arménie, que le Premier ministre est revenu à nouveau sur sa volonté de réformer la justice arménienne et la Cour constitutionnelle notamment, qu'il considère être composée à l'issue d'une fraude dont il rappelle qu'elle est en cours d'investigation par la justice. Raïs Dovmassian, le président de la Cour constitutionnelle, particulièrement sur la sellette, lui aurait à plusieurs reprises offert ses services, quotidiennement, puis hebdomadairement, puis mensuellement depuis mai 2018, affirme Pachinian, qui précise les avoir refusés en l'invitant à « aller en enfer », entre guillemets, car il s'interdisait, dit-il, de coopérer avec les représentants d'un régime corrompu. Fin de citation. La réaction de Dovmassian ne s'est bien sûr pas fait attendre, ce dernier affirmant que depuis mai 2018, il n'avait été en présence du Premier ministre qu'à deux reprises et qu'il ne l'a eu au téléphone qu'une seule fois pour préparer la rencontre avec le président de la Commission de Venise. Considérant qu'il s'agit d'un ensemble mensonger, le président de la Cour constitutionnelle envisage de porter plainte pour diffamation à l'encontre du Premier ministre s'il ne publie pas de preuves fiables d'ici 20 jours. Et Pachinian de répliquer que Dovmassian l'aura forcé à une réponse disproportionnée et brutale. Et l'affaire s'est déplacée pour occuper le terrain à l'Assemblée nationale où le président Ararat Mirzoyan convoque une séance spéciale exclusivement consacrée à l'examen des réformes constitutionnelles permettant de sortir du blocage du Conseil constitutionnel. Rappelons que le pouvoir souhaite la démission de tous les juges de la Cour constitutionnelle et qu'il leur a même été proposé un salaire à vie en guise de retraite s'ils acceptaient de se démettre. Devant leur refus, c'est le ministre de la Justice qui s'est engagé dans une réforme constitutionnelle portant sur la seule haute cour. Réforme qu'il confie à une commission composée d'avocats, d'universitaires et de représentants d'ONG, mais pas, contrairement à ce qui avait été annoncé, de représentants de partis présents au Parlement ou extra-parlementaires. Pas même l'ancien ministre de la Justice, Arpine Ovanessian, pourtant candidate, récusé pour des raisons d'affiliation politique alors que ses compétences ne sont pas remises en question. Décidément, la composition du Conseil constitutionnel est-elle un tel caillou dans la chaussure du gouvernement qu'il faille provoquer une réforme constitutionnelle spécifique pour se débarrasser de ces juges qui ont été élus par l'Assemblée nationale issus de l'ancien régime ? Interrogé enfin sur les manifestations organisées par le mouvement de jeunesse de la Hefera d'Ashnaksutyun contre le ministère de l'Éducation nationale, de la culture, de la jeunesse et des sports, à propos de la volonté du gouvernement de rendre facultatif l'enseignement de la langue arménienne, de l'histoire arménienne et de la littérature arménienne à l'université, le Premier ministre a cru devoir s'expliquer sur ses relations avec le parti d'Ashnak en tenant des propos pour le moins paradoxaux. Il a tout d'abord indiqué que selon lui, il n'y avait aucune opposition entre le gouvernement et la Hefera d'Ashnaksutyun et qu'il était prêt à dialoguer avec le représentant du bureau mondial, mais pas avec la Hefera d'Arménie, qu'il considère comme étant la résurgence au sein de la Hefera d'une branche associée à l'ancien régime corrompu, ce qui l'inquiète pour son avenir politique en Arménie si, selon lui, aucun changement n'intervient dans l'attitude de la Hefera. Un discours qui n'a pas manqué de faire réagir en diaspora, et notamment l'ancien membre du bureau mondial et responsable des bureaux de la cause arménienne, Garo Armenian, qui, dans un article publié sur Yergir, regrette que le gouvernement s'isole progressivement du peuple en s'interdisant de dialoguer avec les différentes forces politiques du pays, dont la principale force extra-parlementaire. Il souligne que le pouvoir a l'obligation de créer l'unité dans le pays et les autorités doivent échanger avec les forces réelles du pays et en premier chef avec le Ashnaksutyun. Il constate finalement que le Premier ministre en est conscient, mais qu'il doit admettre que dialoguer avec la Hefera ou avec tout autre parti politique ne constitue pas un cataclysme politique. Mais il précise que si le dialogue doit s'établir avec le Ashnaksutyun, c'est sans exclusive. Les forces politiques peuvent se trouver en désaccord profond sur certains sujets, mais elles ont le devoir de se rassembler dans l'intérêt supérieur de la nation. Dans son propos, Garo Armenian saisit manifestement l'occasion de rappeler que les responsables au pouvoir se doivent, dans le contexte qui est le nôtre, d'assurer l'unité nationale pour exploiter d'une manière optimum les ressources du pays en dialoguant et œuvrant avec toutes les forces qui la composent, dont y compris le Ashnaksutyun, mais pas que. Valérie Boyer interpelle le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sur la réforme du baccalauréat et ses conséquences sur la langue arménienne. Dans une lettre datée du 24 janvier, la députée des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, attire l'attention sur le fait qu'alors qu'il y a 250 élèves par an qui suivent des cours et passent le baccalauréat en arménien, il n'y a en France qu'un seul lycée sous contrat permettant de répondre aux contraintes de la nouvelle réforme, et il s'agit d'Amaskaïn Marseille. Et Valérie Boyer d'ajouter, je cite, « Pour les autres élèves, faute de moyens et de professeurs ayant des diplômes nécessaires à cet enseignement, ils devront sans doute abandonner cette langue. » La députée note également que les associations qui participaient à l'enseignement de la langue arménienne sont exclues du fait de l'obligation d'un enseignement présentiel dans un lycée public ou sous contrat. C'est pourquoi elle demande au ministre de réétudier les modalités d'évaluation et d'enseignement de ces langues, trop souvent mises de côté, et de valoriser au mieux les langues rares, et en particulier la langue arménienne, dans l'enseignement secondaire. Une intervention importante, à quelques jours des premières épreuves pour lesquelles aucune consigne n'a encore été fournie, plaçant les élèves, les parents et les enseignants dans le plus grand flou. Ainsi que le déplorait, lors de l'émission Carte sur table du 18 janvier, qui est disponible à la réécoute sur notre site radio-ipfm.com, les spécialistes de l'INALCO et les représentants des associations dispensant l'enseignement de la langue arménienne qui étaient présents sur notre plateau. Et pour clore ce journal, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Aravni Chaparian, qui nous a quittés à l'âge de 92 ans. Fidèle auditrice d'IPFM, Aravni Chaparian, né au Moussadar dans le village de Bityas, a, comme beaucoup de Moussadartsi, émigré avec sa famille à Anjar, au Liban, puis en France, après avoir transité dans divers pays du Moyen-Orient et d'Europe, dans le sillage de son époux Mardiros, exerçant dans le cadre de l'administration diplomatique française. Les obsèques d'Arav Nitchaparian auront lieu lundi 3 février à 14h45 à la cathédrale arménienne de la rue Jean-Goujon à Paris. Elle sera ensuite inhumée au cimetière communal de Bagneux. La direction et les collaborateurs d'IPFM présentent leurs sincères condoléances à Kevork, son fils, et à Smik, son épouse, Amaral Karaoglanian et Zéla Terzian, ses filles, toutes deux membres du conseil d'administration de la Croix-Bleue des Arméniens de France, et à leur époux Christian et Jacques, ainsi qu'à ses nombreux petits et arrière-petits-enfants. À la demande de la famille, il nous est prié de signaler qu'en guise de fleurs et couronnes, les dons peuvent être effectués à la Croix-Bleue des Arméniens de France, au journal Nora Ratch et à la radio IPFM. Fin de ce journal, qui reprend un bouquet des informations de la semaine. Merci de votre attention et excellent week-end à tous.